This land is your land. This land is my land. From California. Xavier Moreau, bonjour, bienvenue en France.
Bonjour, merci.
Vous êtes ici en France pour une tournée de conférences, entre autres, dont certaines sont organisées par Égalité et Réconciliation. Et nous sommes ici à Nantes, Nantes grande ville de l'Ouest, qui est aussi le pont entre la Bretagne et la Vendée. Qu'évoque cette ville pour vous, d'un point de vue historique ?
Pour moi, c'est, comment dirais-je, déjà l'Ouest de la France, je connais un petit peu parce que j'ai été à Saint-Cyr, donc c'est plus la région de Rennes, mais c'est une région que je connais, pas très très bien non plus, il faut être parfaitement honnête. Et puis, du point de vue historique, évidemment, c'est la Révolution française, dont j'ai parlé dans mon livre noir. Donc évidemment, c'est une région martyre. Et c'est une région qui, il faudrait rendre justice du point de vue historique, c'est-à-dire qu'on raconte ce qui s'est passé et que le régime actuel assume ses responsabilités devant l'histoire et devant le peuple français. Parce que ceux qui ont massacré à Nantes, ceux qui ont noyé les gens, ceux qui ont massacré ou alors en Vendée, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ce sont les héritiers. Et ils se revendiquent de cet héritage. Donc il serait temps de leur rappeler ce qu'ils ont fait. Et de manière peut-être à sortir en plus de cette spirale totalitaire dans laquelle on est rentré à partir de 1792. Voilà ce que ça dit pour moi.
Alors effectivement, ça nous fait venir sur votre livre, Le Livre Noir de la Gauche Française, paru en 2021. Vous avez évoqué les noyades de Nantes avec le tristement célèbre Jean-Baptiste Carrier. Dans votre livre, vous parlez de la gauche française. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce concept de gauche française pour évoquer les Républicains? Pourquoi vous employez ce terme?
En fait, je remonte vraiment à l'origine du terme de la gauche française. Il faut se souvenir de ce que c'est. C'est-à-dire, c'est lorsque la constituante se met en place, eh bien, le roi est au centre et à droite, il y a, on va dire, les monarchistes constitutionnels, donc les feuillants, ce qu'on appelle les feuillants, et à gauche, il y a à la fois les montagnards ou les jacobins et les girondins. Donc ce sont les deux partis régicides. Donc c'est eux qui vont former la gauche, et d'ailleurs ce terme de gauche et de droite, à partir de cette définition-là, va se répandre dans le monde entier. Et donc moi j'ai voulu revenir à l'origine et savoir ces deux courants de la gauche française, c'est-à-dire les girondins et les jacobins. Qu'est-ce qu'ils ont fait déjà au moment de la Révolution? Donc il y en a, ils ont exterminé, en fait, les deux ont une ambition de transformer le monde, de créer un être nouveau, qui soit du passé faisons table rase, ou plutôt, comme disait, comment il s'appelait, l'histoire n'est pas notre code, Rabot de Saint-Étienne, donc de vouloir créer un homme nouveau. Alors, les uns, c'était pour l'intérieur, donc ça, c'est les Jacobins, les Montagnards, donc qui vont massacrer ceux qui sont pas d'accord avec eux, qui veulent garder leur bon prêtre, qui veulent pas aller faire la guerre aux frontières, puisque en même temps, vous avez la gauche girondine, qui, elle, eh bien, ambitionne de créer un homme nouveau partout dans l'Europe. C'est-à-dire et comme plus tard, elle ambitionnera, par la colonisation, de répandre ces valeurs qu'elle croit universelles et bienvenues dans le monde entier, et du Tonkin jusqu'à l'Afrique. Donc en fait, c'est ces deux courants-là. Vous en avez un qui met en place un système répressif, donc qui considère que sa mission, dont on ne sait pas trop qui lui a donné, c'est de transformer la France de l'intérieur, de transformer le français de l'intérieur. Et donc ça va immédiatement avoir lieu dans le domaine éducatif. Comment il s'appelle, Robespierre, c'est lui qui prend la parole pour exposer le projet éducatif. Ça se voit dans le système répressif, qui continue jusqu'à aujourd'hui. On voit les gilets jaunes, je pense que tôt ou tard les paysans ils vont faire les frais. Et donc cette répression, d'ailleurs j'ai un chapitre, la gauche française et la répression, on l'observe, la manière dont les ouvriers sont réprimés par la gauche bourgeoise, la manière dont les paysans sont réprimés lors des soulèvements paysans. Donc il y a tout cet héritage encore est celui de la gauche, je dirais quelles que soient ses branches, puisque pour moi aujourd'hui, ils se revendiquent tous de la Révolution, de Marine Le Pen jusqu'à Jean-Luc Mélenchon, passant par Emmanuel Macron, tout le spectre, en fait, se revendique de la Révolution pris comme un bloc, puisque c'est ce que voulait Clémenceau. Et aujourd'hui, la partie qui nous intéresse le plus, c'est l'héritage girondin de Brissot, qui, en avril 1792, lance la guerre contre le roi de Bohême et de Hongrie, donc c'est-à-dire le roi d'Autriche, et en fait, qui déclare la guerre aux tyrans pour, soi-disant, exporter, pareil, les valeurs de la Révolution, et qui va mettre l'Europe à feu à sang jusqu'au traité de Vienne, jusqu'en 1815. Et aujourd'hui, quand on écoute le discours d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la Russie, on est dans le même fanatisme. Et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est de voir que ce droit qu'ils se sont arrogés d'exporter leurs valeurs révolutionnaires, ces valeurs issues des Lumières, qui a entraîné la colonisation, qui, contrairement à ce qu'on a dit, la France n'a jamais pillé les richesses parce que ce qu'on a colonisé, en fait, c'est ce que l'Angleterre nous laissait, il n'y avait rien à prendre. Et en revanche, elle a exporté la Révolution, elle a exporté ses idées de la Révolution. Et encore aujourd'hui, ça marque profondément la gauche, et on le voit dans ce qui se passe actuellement en Ukraine, c'est-à-dire que la France n'a aucun intérêt en Ukraine et en mer Noire, mais la gauche, la totalité d'ailleurs, de Marine Le Pen jusqu'à Jean-Luc Mélenchon en passant par Emmanuel Macron, a pris des décisions qui coûtent très cher à notre économie par fanatisme. Et donc c'est pour ça qu'il est temps de sortir de cette spirale infernale qui a démarré en 1792.
Et d'un point de vue plus personnel, sur la motivation à écrire ce livre, vous vivez en Russie depuis une vingtaine d'années, vous êtes donc peut-être moins directement touché par la vie politique française ou par les effets de la vie politique française que les gens qui vivent en France. Qu'est-ce qui vous a malgré tout poussé à écrire ce livre en 2021 ?
Alors si, moi, même de Russie, je contemple avec effroi l'effondrement de mon pays. Quand il y a eu les Gilets jaunes, j'ai fait des allers-retours le week-end pour participer au... J'ai participé à 4 actes, notamment l'acte numéro 3 et 4, je crois, de mémoire. Donc c'était les actes où c'était encore les Gilets jaunes canal historique, hein, dirons-nous. Et donc non, moi j'ai cru au soulèvement du peuple français. Je pense d'ailleurs que Macron a eu très peur, ça se voyait sur son visage en décembre 2018. Il a eu peur et d'ailleurs les Gilets jaunes, contrairement à ce qu'on a dit, ont gagné parce que c'était une révolte fiscale, socialo-économique. Et Macron s'est soumis et a annulé la taxe sur le diesel. Et c'est comme ça que démarrait les révolutions et Macron a été suffisamment intelligent cette fois-là. Il a compris que s'il ne capitulait pas, la révolte sociale allait se transformer en révolte politique. Et c'est ce moment-là. Et à l'époque, il pouvait encore le faire parce que sa décision notamment de mettre un impôt sur le diesel, c'était pour financer les voitures électriques. C'était une espèce de... Pareil, toujours le fanatisme, hein, toujours, tout est grotesque, mais en même temps, c'est fanatique. Et ça a coûté, il a crevé les yeux de ses opposants. Même Kim Jong-un n'a pas fait ça. Hein. C'est pour ça que moi, je me suis senti concerné. J'ai vu qu'effectivement, à partir du moment où il a capitulé, ben, les travailleurs sont rentrés chez eux. Et là, effectivement, on est passé à un deuxième style. Donc, c'était plus canal historique, c'était des gauchistes qui, finalement, ont saboté le mouvement qui, à la base, est un mouvement de travailleurs. C'était la France qui travaillait contre la France des parasites. Du haut du parasitisme, des ministres et des hauts fonctionnaires et d'une partie de la classe politique, jusqu'au niveau de celui qui est payé à rien faire, au prix de ceux qui travaillent, la France qui bulle et la France qui bosse. Donc c'est un mouvement sain et je pense que ça, c'est pas terminé. Là, les paysans ont pris le relais, c'est toujours pareil, c'est des mecs qui bossent contre ceux qui en font pas une.
Un agriculteur, c'est une vie humaine. Donc, les grilles à la préfecture, on n'en a rien à branler. Et je vous garantis que d'ici ce soir, on tombera les grilles à la préfecture, quoi qu'il en coûte.
À Agen, les agriculteurs sont mobilisés depuis lundi, avec le sentiment de n'être toujours pas entendus. D'autres camions de fruits, de pneus, de fumier sont prêts à être déversés, comme ici, dans ce McDo. Une autre cible symbolique du malaise profond du monde paysan.
Donc voilà, donc je suis concerné par ce qui se passe en France. Si je vois qu'il y a un mouvement politique qui vaut la peine, que je peux ajouter, même participer modestement parmi les manifestants comme j'ai fait avec les Gilets jaunes, je le ferai. Et après, c'est vrai que ce bouquin, Les Noirs de la gauche française, c'était un truc qui était en maturation depuis des années. Le chapitre, par exemple, sur la colonisation, je l'avais écrit depuis longtemps. Et arrivé un moment, je me suis dit, j'avais atteint une certaine popularité sur Internet, et je me suis dit, j'ai envie de le faire en auto-éditeur, donc, et tôt ou tard, ma chaîne va sauter. Je m'étais pris un avertissement, parce que j'avais parlé du lobby LGBT, par exemple, au sein du ministère des Affaires étrangères, donc je me suis dit, tôt ou tard, la chaîne va sauter, autant en profiter tant qu'elle existe. Et donc, j'ai publié ce bouquin, je l'ai terminé, durement, j'ai du mal à finir mes livres, mais j'y arrive à la fin et je ne vais pas faire croire que c'est facile. Et en fait, donc il est sorti en décembre 2021. 2 mois et demi après, l'opération militaire spéciale commençait. Il y a des tas de gens qui m'ont découvert et donc qui ont acheté mon livre sur l'Ukraine de 2015 et celui-là. Et donc il y a eu un engouement et encore aujourd'hui d'ailleurs, je vois les gens continuent à l'acheter. Et comme je le dis, il y a des chapitres qui nous relient à ce qui se passe aujourd'hui avec l'Ukraine, notamment la gauche française et la guerre, comme je viens de l'expliquer. Et puis cette mentalité coloniale aussi, d'imposer, de vouloir transformer des peuples qui nous ont rien demandé. Et je pense que ce qui plaît dans la gauche française sur ce qui se passe en Ukraine, c'est que c'est un projet colonial. Vous avez un projet de la part des élites kiéviennes de transformer les Russes et les russophones pour les faire Union européenne-compatibles, donc c'est-à-dire LGBT, ce qu'on a observé en Pologne, quoi qu'ils en disent, ça a déjà commencé. Et puis vous avez le projet bandériste qui est de transformer donc des populations russes et russophones, dont les grands-parents ou arrière-grands-parents ont tous été des héros contre l'Allemagne nazie, de les transformer en admirateurs de Bandera et Chouchkevitz, dont les nazis ne voulaient même pas d'ailleurs. C'est quand même les héros de Bandera, ce sont des tocards. Ce sont des minables et des criminels. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je les appelle plus cro-nazis, parce qu'en fait, même les nazis n'en voulaient pas. Et aussi parce que le terme nazi ne veut rien dire. Quand on écoute nos adversaires politiques, vous êtes un nazi, je suis un nazi, on est tous le nazi de quelqu'un, donc ce terme ne veut rien dire. Donc c'est pour ça que je préfère parler de banderiste.
Merci. Alors, on passe au dernier livre, « Ukraine, pourquoi la Russie a gagné ?» Alors ce livre apparaît comme un condensé d'informations factuelles, de logique, de bon sens, dans un monde occidental, en France en tout cas, complètement noyé sous la propagande otanesque. Alors comment peut-on aider nos concitoyens français, non informés ou sous influence, sous hypnose, à combler ce fossé entre l'appréhension objective de la réalité politique, géopolitique et cette hypnose collective.
Je pense qu'il y a deux réalités incontestables. C'est-à-dire que la France n'a aucun intérêt en Ukraine et en mer Noire. Donc ça, on peut commencer par ça. Donc du point de vue purement égoïste, on n'a pas à y aller. Donc autant jouer notre rôle qui doit être celui de la France, c'est-à-dire de puissance d'équilibre, donc d'être neutre et de proposer une conférence de paix. Mais pour ça, il faut être neutre. Maintenant, Marine Le Pen et Jordan Bardella qui proposent une conférence de paix, vous livrez des armes et vous mettez des sanctions contre la Russie. Non, Erdogan peut. Erdogan peut parce que lui, d'un autre côté, il a des bons accords avec les Russes. Il continue à donner un petit coup de main aux Ukrainiens. Il est une puissance. L'Arabie Saoudite le peut. D'ailleurs, il y a un projet. L'Inde le peut, la Chine le peut. Il y a des tas de pays qui le peuvent, mais aucun des pays occidentaux ne le peuvent. Donc, il y a ça. Donc ça, c'est une première évidence. C'est-à-dire que la France n'a aucun intérêt. Alors après, il y avait si, c'est pour défendre nos valeurs. Non, ça, c'est de l'idéologie. Ce n'est pas un intérêt. L'intérêt de la France, c'est qu'est-ce qui est bon pour le peuple français et pour notre pays. Eh bien, ce qui est bon, c'est de nous tenir à l'écart de cette histoire-là. Et même si on part vraiment de l'intérêt purement égoïste, c'est d'avoir de bonnes relations avec la Russie qui nous vend d'une énergie pas chère. Voilà, la vérité, c'est ça. Et qui était un bon client. Et en plus, les Français étaient pionniers. On avait la plus grosse banque étrangère, la Société Générale Rosbank. On avait le premier fabricant automobile, Renault. Et on a toujours des gros projets pétroliers. Donc on avait, même du pur vent, il fallait surtout se tenir à l'écart et proposer notre médiation. C'était ça qu'il fallait faire. La deuxième chose, c'est est-ce que l'Ukraine a jamais eu une chance de l'emporter contre la Russie, qu'on soit pour l'Ukraine ou contre l'Ukraine. Ce n'est pas le problème. Factuellement, non, elle n'a jamais eu aucune chance, c'est ce que je démontre dans ce bouquin. Mais simplement, les classes gouvernantes occidentales ont cru pouvoir piéger la Russie, affaiblir la Russie, ont sous-estimé l'économie russe, l'armée russe, le complexe militaro-industriel russe. Et c'est ça leur crime. Et surtout, même quand ils se sont aperçus que l'économie russe ne s'effondrerait pas, ils ont continué. Alors qu'encore une fois, et je le démontre dans ce livre, l'Ukraine n'a jamais eu aucune chance de l'emporter. Et c'est ça qui est terrible. Donc ceux qui leur ont dit de le faire sont soit des salopards, soit des idiots, soit un peu des deux, et c'est souvent le cas.
Vous avez présenté votre ouvrage pendant la conférence, et donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais juste un point, vous terminez l'ouvrage en parlant de l'unité du peuple russe, de l'unité de politique et aussi confessionnelle du peuple russe. Qui est remarquable, en fait, en Russie, tout simplement.
Exemplaire.
Est-ce que ce modèle vous semble encore aujourd'hui une possibilité pour la France, possibilité réelle pour la France, ou bien est-ce que cette unité du peuple français est définitivement perdue et qu'il faut penser à des solutions inédites et nouvelles pour préserver l'esprit français ?
Disons qu'il est vrai qu'en France, on part avec un lourd handicap par rapport au modèle russe. Le premier, c'est que notamment je parle de l'islam russe, les musulmans russes ne sont pas des déracinés. Le Tchétchène, il vient de la Tchétchénie, il a sa terre, il a son histoire en Russie, en Tchétchénie. Pareil pour le comment dirais-je, le Tatar, il vient du Tatarstan, Ça fait 5 siècles que les Tatars sont en Russie. Et en plus, il faut voir qu'ils ont toujours été des citoyens. C'est-à-dire que ça n'a pas été une colonisation où, comme on a eu en France. Par exemple, en France, on a colonisé. On a donné la citoyenneté aux Juifs, mais on ne l'a pas donné aux Arabes ni aux Noirs. La réalité, c'est ça. Alors qu'en Russie, eh bien, tous finis citoyens. Aujourd'hui, ce sont tous des citoyens. Donc il y a ce problème-là. Ce ne sont pas des déracinés. Ensuite, la Russie est un pays traditionnellement qui, effectivement, est multi-ethnique, multiculturel, multi-religieux. Et en France, nous, on a un autre modèle. C'est celui, on a en fait une espèce de religion monothéiste qui s'appelle la laïcité, qui s'impose à toutes les autres et qui a des exigences, y compris sur la doctrine de la foi. Par exemple, quand ils réclament un islam de France, c'est exactement ça dont il s'agit. Ils veulent un catholicisme de France, donc qu'il soit LGBT compatible, mariage homosexuel, etc. Et ils veulent, quand ils parlent un islam de France, c'est ça aussi dont ils parlent. Évidemment que ça, même les catholiques, pour l'instant, continuent à résister, tant bien que mal, mais je ne vois pas comment l'islam pourra adopter ça. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et ensuite, aussi, une question de volume, c'est-à-dire que les populations, que ce soit d'ailleurs du point de vue racial ou du point de vue religieux, sont arrivées très violemment, en grand nombre, très violemment, pas, ils n'ont pas été violents, mais ils ont été importés en grand nombre sur une période extrêmement courte, ce qui rend leur intégration, leur assimilation, peu importe. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas la solution. Je vous dis honnêtement, je ne sais pas comment c'est possible d'intégrer. Surtout qu'en plus, ils ont été importés et en même temps, ils ont été accueillis par des professeurs trotskistes qui leur ont expliqué que les Blancs, qui leur donnaient tout, en fait, leur avaient tout volé. Alors qu'en plus, déjà, c'est une vision tribale des choses. Même si c'était le cas, je ne suis pas responsable. Par exemple, mes deux grands-parents ont été héroïques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais même s'ils avaient collaboré, en quoi, moi, je suis responsable? On est dans un pays d'hommes libres. Je ne suis pas tenu par les crimes qu'auraient commis mes grands-parents. Encore une fois, ce n'est pas le cas. Mais je ne suis pas non plus un héros parce que mes grands-parents ont été des héros. À la limite, ils ont mis la barrière en haut. Donc ça doit m'inspirer. Mais en soi, je ne suis le porteur ni de leur péché, ni de leurs bonnes actions. Et voilà. Donc en fait c'est la situation dans laquelle on trouve. Et c'est pour ça que je sais pas. Ce que je vois surtout quand je viens en France, c'est que les gens sont quand même assez désespérés. Et ils ne voient pas de solution. Donc voilà. Donc c'est, en tout cas, la première chose à faire, c'est de panier l'évidence et puis d'arrêter de dire que l'immigration a été ou est une chance pour la France. Ce n'est pas vrai. Il y a des immigrés qui ont beaucoup apporté à notre nation, mais l'immigration en soi est une véritable catastrophe pour la France. Et la vérité aujourd'hui, c'est ça. Il faudrait peut-être commencer par la dire.
Dans l'autre sens, en parlant de ces deux peuples, est-ce qu'en Russie, le peuple russe et les autorités politiques russes se rendent compte qu'en France, une partie non négligeable de la population quand même soutient Poutine, ou en tout cas n'est pas hostile à Poutine?
Je pense que oui. Je pense que d'ailleurs l'ambassade de Russie en France fait bien son boulot. Ils sont capables de transmettre les véritables niveaux de ce qui se passe dans la population française.
Il ne se reconnaît pas en Macron.
Voilà, c'est ça. Vous avez eu cet entretien donc avec Christelle Néant et Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine a dit, je sais très bien que, voilà, quand il y a eu Pierre de Gaulle qui est intervenu au Club Valdaï, Vladimir Poutine l'a remercié, lui a dit à quel point il respectait son grand-père, etc., etc. Et surtout, Vladimir Poutine sait comment ça se passe. Il y a 2 ans, on a mis la population française sous stress vital, comme dirait Laurent Ozon. Donc en fait, on arrête de penser, les Russes sont méchants. Et puis là, vous voyez que ce stress, on ne peut pas le maintenir en permanence. Hein, c'est comme un muscle tendu, à un moment, ça se relâche. Et là, maintenant, les derniers sondages, notamment l'Institut Jean Jaurès, montrent qu'autant il y a 2 ans, on était à 80% de soutien au projet qui vient. Maintenant, on est à 50% et ça va aller en déclinant. D'autant plus que petit à petit, le travail que nous faisons, ça finit par toucher les gens, les premiers gens qui ont une conscience politique et puis après qui parlent autour d'eux. Et il ne faut pas sous-estimer ça, les cellules en fait qui petit à petit régénèrent le corps intellectuel de la nation. Donc ça commence à fonctionner. Là-dessus, oui, je pense que Vladimir Poutine est de la vieille école, il sait très bien comment ça se passe, comment on peut manipuler une population sous stress.
Deux dernières questions, une un peu large et puis une plus légère pour terminer. Vous êtes en tournée en France, on l'a dit, pour une série de conférences dont quelques-unes sont organisées par Égalité et Réconciliation. Quel regard portez-vous sur cette association créée par Alain Soral en 2007?
Bah écoutez, moi j'ai toujours bien aimé, j'allais sur le site, hein. Même Elisabeth Lévy d'ailleurs avait dit qu'elle allait sur le site d'Égalité et Réconciliation. Là où j'ai trouvé vraiment que c'était une association d'utilité publique, c'est au moment du Covid. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu un moment où en fait il n'y avait plus que sur Égalité et Réconciliation qu'on trouvait une vision. Au début, personne n'avait de certitude, mais on a essayé de comprendre ce qui se passait, qu'est-ce qui... Voilà. Et ça, c'était vraiment, je pense, c'était le véritable moment voilà, où Égalité et Réconciliation est devenue quelque chose de nécessaire. Et puis, sur la plupart des lignes, notamment sur la Russie, c'était toujours juste, toujours documenté. Voilà. Donc, moi, j'apprécie beaucoup. Et en plus, ce que je vois, c'est... une organisation très professionnelle au niveau des fédérations que petit à petit je découvre les unes après les autres. Et j'aime bien ça, c'est pro, voilà. De ce point de vue purement technique.
Bon, et une question plus légère peut-être, mm-hmm. Pour finir. Vous concluez toutes vos vidéos Stratpol par l'injonction « Courage, on les aura ». Alors cette expression a-t-elle une histoire personnelle?
Oui, bien sûr. En fait, c'est l'ordre de bataille du 9 avril 1916 du général Pétain. En fait, la situation à Verdun est catastrophique, comme aujourd'hui en France, où, d'ailleurs plus en France qu'en Russie. En Russie, ça se passe plutôt bien. Et donc, il donne cet ordre de bataille, il explique ce qu'il va faire, de manière des mots assez simples, mais très fort. Et il finit par ce mot « courage, on les aura ». Et alors, il faut lire l'ordre de bataille en entier pour voir la puissance un peu. Parce qu'en plus, pour moi, le général Pétain est le plus grand chef de guerre, toute armée confondue, de la Première Guerre mondiale. Je ne suis pas du tout pétainiste sur la partie de la collaboration, ni même sur la guerre du Rif, ni même sur des tas de choses. J'explique dans mon livre d'ailleurs, mais sur la Première Guerre mondiale, personne ne pourra jamais lui retirer qu'il a été le plus grand général, toute armée confondue. Et d'ailleurs, c'est le vainqueur. Bon. Il aimait le soldat français, il l'aménageait, il était très populaire. Pourquoi ? Parce que... Et en même temps, ce n'était pas seulement un humaniste, je dirais, mais c'était encore une fois un guerrier. Et la puissance de cet ordre de bataille est quelque chose. Et surtout quand, à la fin de l'année 2022, je sentais parmi les gens qui me suivaient, il y avait des inquiétudes à cause des contre-offensives de Kharkov, de Kherson. Je me suis dit, tiens, c'est pour galvaniser les troupes, c'est 9 avril 1916, l'ordre de bataille, courage, on les aura.
Xavier Moreau, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et bon séjour à Nantes.
Merci.
Was made for you and me.